Mon témoignage commença le 3 août. Après 3 ans de silence, d'interdiction et d'exil intérieur, j'attendais d'avoir l'occasion de parler devant ceux qui essayaient de me juger. Pendant ma déposition, je défendis la modération de l'ANC et je réaffirmais son engagement dans la lutte non violente. Quand on me demanda si je pensais qu'on pouvait atteindre la démocratie de façon graduelle, je répondis que je le pensais. Je déclarai « Nous exigeons le suffrage universel et nous sommes disposés à exercer des pressions économiques pour atteindre nos exigences. Nous lancerons des campagnes de défis, des grèves à domicile, soit l'une après l'autre, soit ensemble, jusqu'à ce que le gouvernement nous dise « Messieurs, nous ne pouvons continuer ainsi avec des lois non respectées et toute cette situation créée par des grèves à domicile, parlons ensemble. » Nous pensons que dans un avenir proche, il nous sera possible d'atteindre nos objectifs et nous avons travaillé sur l'idée que les Européens eux-mêmes, malgré le mur de préjugés et de haine auquel nous nous heurtons, ne pourront pas rester éternellement indifférents à nos demandes parce que notre politique de pression économique les frappe au ventre. Les Européens n'osent pas la considérer avec indifférence, ils devront y répondre et en réalité, Monsieur le Président, ils y répondent. L'état d'urgence fut levé le dernier jour d'août. Nous allions rentrer chez nous après 5 mois de détention. À Johannesburg, quand les gens apprirent la fin de l'état d'urgence, ils vinrent à Pretoria persuadés qu'on allait nous libérer. Quand nous sommes sortis, les amis et la famille nous ont accueillis avec joie. Winnie était là, et nous nous sommes retrouvés avec bonheur. Depuis 5 mois, je n'avais pas tenu ma femme dans mes bras. Et je ne lui avais pas vu un tel sourire. Pour la première fois depuis 5 mois, cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit. Quand on est allé en prison, ce qu'on apprécie le plus, ce sont les petites choses. Être capable d'aller se promener quand on le veut, entrer dans une boutique, acheter un journal, parler, ou choisir de rester silencieux. Le simple fait d'être maître de ses actes. Même après la levée de l'état d'urgence, le procès a encore continué pendant 9 mois, jusqu'au 29 mars 1961. À bien des égards, ce fut une période de gloire pour les accusés, parce que les nôtres, à la barre, exposaient sans crainte la politique de l'ANC. Robert Recha réfuta l'affirmation absurde selon laquelle nous poussions ce dernier à utiliser la violence afin que nous puissions l'utiliser à notre tour contre lui. Gert Sibande raconta avec éloquence la vie de misère des paysans africains. Le vénérable Isaac Bendy de Ladysmith, âgé de 81 ans, un prêcheur laïc de l'African Native Mission Church, expliqua pourquoi nous choisissions les grèves à domicile plutôt que sur le tas. En octobre, le redoutable professeur Matthews fut appelé comme notre dernier témoin. Il expliqua dans une langue magnifique que le peuple africain savait qu'une lutte non violente entraînerait des souffrances, mais il l'avait choisi parce que pour lui, la liberté n'avait pas de prix. Les gens, dit-il, accepteront volontairement les pires souffrances afin de se libérer de l'oppression. Avec le professeur Matthews, la défense termina en fanfare. À la fin de son témoignage, le juge Kennedy lui serra la main et lui dit qu'il espérait le rencontrer une nouvelle fois, dans de meilleures conditions. L'accusation mit plus d'un mois pour déposer ses conclusions, et fut souvent interrompue par la cour qui lui faisait remarquer les insuffisances de son raisonnement. En mars, ce fut notre tour. I.C. Maysles refusa catégoriquement l'accusation de violence. Nous reconnaissons qu'il y a une question de non-coopération et de résistance passive, dit-il. Nous dirons très franchement que si la non-coopération et la résistance passive constituent un crime de haute trahison, alors nous sommes coupables. Mais ces faits ne sont pas compris dans la loi de haute trahison. Peu après, le Comité national se réunit secrètement pour parler de stratégie. Après plusieurs réunions en prison et à l'extérieur, nous nous étions résolus à travailler dans la clandestinité. On décida que si nous n'étions pas condamnés, je passerais dans la clandestinité pour parcourir le pays afin d'organiser la convention nationale. Seul quelqu'un travaillant à plein temps dans la clandestinité serait libéré des interdictions imposées par l'ennemi et qui nous paralysaient. On décida que je réapparaîtrais lors de certains événements, en espérant un maximum de publicité pour montrer que l'ANC luttait toujours. Cette proposition ne m'a pas surpris, et elle ne m'a pas particulièrement plu, mais je savais que je devais le faire. Je mènerais une vie de hasard, séparée de ma famille, mais quand on refuse à un homme de mener la vie dans laquelle il croit, il n'a pas d'autre choix que de devenir un hors-la-loi. Quand je suis rentré à la maison après la réunion, ce fut comme si Winnie pouvait lire dans mes pensées. En voyant mon visage, elle sut que j'étais prêt à m'embarquer dans une vie que nous ne souhaitions ni l'un ni l'autre. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et que je partais le lendemain. Elle a compris que je devais le faire, mais ça ne lui facilitait pas la tâche. Je lui ai dit que des amis et des parents s'occuperaient d'elle pendant mon absence. Je ne lui ai pas dit combien de temps elle durerait, et elle ne me l'a pas demandé. C'était aussi bien parce que je ne connaissais pas la réponse. Je retournais à Pretoria le lundi, sans doute pour entendre le verdict. Quel qu'il fût, je ne rentrerai pas à la maison. Si nous étions condamnés, j'irai directement en prison. Si nous étions acquittés, je passerai immédiatement dans la clandestinité. Avant même que s'ouvrent les portes de l'ancienne synagogue, le matin du 29 mars 1961, le jour du verdict tant attendu du procès de trahison, une foule de partisans et de journalistes se bousculait pour pouvoir entrer. Des centaines de personnes furent refoulées. Quand les juges eurent ramené l'ordre, la galerie du public et le banc de la presse étaient combles. « Silence !» hurla l'huissier. Et le juge Rumpf annonça que les trois juges avaient déterminé un verdict. On aurait entendu une mouche voler. De sa voix grave et unie, le juge Rumpf rappela les conclusions du tribunal. Oui, le Congrès national africain avait travaillé pour remplacer le gouvernement par une forme d'État radicalement et fondamentalement différente. Oui, le Congrès national africain avait utilisé des moyens illégaux pour manifester pendant la campagne de défi. Oui, certains responsables de l'ANC avaient fait des discours dans lesquels ils défendaient la violence. Et oui, il y avait une forte tendance de gauche dans l'ANC qui se révélait par des prises de position anti-impérialistes, anti-occidentales et pro-soviétiques. La Cour dit que l'accusation n'avait pas réussi à prouver que l'ANC était une organisation communiste, ni que la Charte de la Liberté envisageait un État communiste. Après avoir parlé pendant 40 minutes, le juge Rumpf conclut. En conséquence, les accusés sont déclarés non coupables et acquittés. Dans la galerie du public, ce fut une explosion de joie. Nous nous sommes levés pour nous prendre dans les bras et faire des signes à la salle. Nous avons tous défilé dans la cour en souriant, en riant, en pleurant. La foule a hurlé et chanté quand nous sommes sortis. Nous cherchions nos amis, nos épouses, nos parents. J'ai serré Winnie dans mes bras, tout en sachant que je ne pourrais pas savourer longtemps ma liberté. Mais, pour le gouvernement, la conséquence de cette défaite humiliante fut qu'il décida que cela n'arriverait plus jamais. À partir de ce jour-là, il ne fit plus confiance à des juges qu'il n'avait pas lui-même nommés. Il ne respecta plus ce qu'il appelait les subtilités juridiques qui protégeaient les terroristes ou assuraient certains droits aux prisonniers. Pendant le procès de trahison, il n'y eut aucun exemple d'accusé isolé, battu ou torturé pour obtenir des informations. Mais tout cela est devenu monnaie courante, tout de suite après.